salutations à tous ceux qui sont de bonne humeur et qui n'ont pas le sourire d'en face et qui se le font dire constamment par leurs collègues. Vous n'avez pas idée à quel point on se comprend aujourd'hui.
Ah, t'as l'air blasé.
T'es-tu correct? T'as de l'air fatigué, t'as de l'air blasé. Pantoute, je suis top shape.
T'es top shape?
C'est juste que
c'est
je sais
face.
Pas. Ben ouais, c'est ça. Mais ça a toujours été ça. Je sais pas vous autres...
T'es un incompris, Yann.
Non, mais il y a des gens, je fais partie de ceux-là, on est super de bonne humeur, mais dans notre face, dans le faciès, là, c'est vraiment pas évident.
Mais c'est pas ça qui m'a fait hésiter, sais-tu? Parce
c'est
que
vrai?
Je sais que t'as une face de plâtre.
Ah!
Ce qui m'a fait hésiter...
Oui.
Ce qui m'a fait hésiter, c'est ton ton. La façon dont tu réponds souvent, ça en dit long.
C'est vrai?
Oui. Hein? Fait que je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qui tape ses nerfs un matin.
Puis je réponds comment, mettons?
Ben non, mais t'es plus expéditif dans tes réponses. Ouais. T'es plus expéditif quand je te sens moins relax. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qui tape ses nerfs un matin.
Pas en tout.
Zéro pinball.
Pas en tout.
Même
ça
pas un collègue.
Non.
Un en particulier
de...
qui parle trop fort dans les corridors. Là. Même pas un.
Non, tu vois, ça, c'est le genre de monde avec qui je m'entends bien d'habitude. Mais je sais pas. Je sais pas comment vous faites pour remédier à ça, ceux qui ont des faces de plâtre comme moi le matin. Là, mais c'est que, ouais, mais si ça me tente pas.
De sourire?
Ouais.
C'est correct.
Tu sais, si c'est drôle, je souris.
Ouais.
Si il y a quelque chose qui est le fun à voir, je souris. Mais si je suis la face devant mon ordinateur, j'ai pas à faire
les
babelles.
C'est peut-être moi qui est pas au même. Ouais. Moi, je suis vraiment de bonne humeur le matin. Fait que c'est peut-être ça qui fait que j'ai l'impression qu'on est sur deux paliers.
T'as commencé en t'intimidant toi-même, c'est-à-dire que tu t'es regardé dans le reflet de ton portable et tu t'es dit, mon Dieu, j'ai des oreilles pointues.
Mais c'est que, oh, oui. Oui, parce que ce matin, nous, les filles, Yann, on
nous,
les femmes.
Les femmes.
On essaie de ne pas laver nos cheveux tous les jours parce qu'ils disent que c'est pas bon. Mais moi, je suis ce genre d'individu dont les cheveux viennent vraiment gras pendant la nuit pour aucune raison particulière. Ce qui fait que je dois laver mes cheveux tous les jours. Et là, ce matin, je me suis regardée et je me suis dit, je vais essayer de toffer deux jours. Fait qu'il a fallu que je me fasse une couette lichée. C'est pas genre du petit gel que j'ai ajouté. Là, c'est mes cheveux qui sont complètement gras.
Enlève-toi tes écouteurs, moi.
Non.
Ah ouais, vas-y.
Non.
Je veux le voir.
Et étant donné que c'est vraiment liché sur ma tête, puis je fais rarement cette coiffe-là, j'ai remarqué dans le reflet de mon ordi que j'avais l'air d'un elfe. J'ai les oreilles comme un peu pointues. J'ai toujours eu les oreilles de même, mais j'ai tout le temps les cheveux lousses.
Mais j'ai jamais remarqué. Montre-moi ça, va.
J'y tiens pas.
Écoute, une seconde, là.
C'est pas gênant.
Hey, shit, c'est vrai.
Oh, arrête! Ils sont comme... Ils sont comme... Je sais pas, son parent.
Ils sont comme trop longues, là.
Ils sont pas grosses, ils sont longues, t'as raison.
Ouais, et ça est grosse, là.
Wow, non, pousse pas, ils sont pas grosses quand même, là.
T'as des grosses oreilles très longues.
Oui, ben, ça fait comme. Fait que ça fait un effet un peu. C'est ça, elfe. Mais je me le faisais dire quand j'étais petite. Puis là, c'est comme un matin, j'ai réalisé que, hey, crime, c'est encore le cas tant d'années plus tard. Ça se reproduira pas. Mais là, je suis de bonne humeur, essaie de pas casser ça, s'il te plaît.
Non, mais c'est toi qui s'est dit ça à toi-même. Même Véro te l'a dit.
Totalement.
Quand Denis vous demande d'où viennent vos complexes, votre réponse à vous, c'est de vous-même.
De nous-mêmes,
ouais,
tout le temps.
Exact.
Mais ça, c'est comme un mode de défense. Tu préfères toi-même mentionner ce qui va pas chez toi au lieu que quelqu'un te le dise.
T'as-tu l'impression que c'est plus une affaire de fille, ça, l'histoire des complexes versus les gars?
Oh, c'est une grosse question. Je pense que les filles, on est plus verbal par rapport à ça. Les hommes, peut-être un peu moins.
Ouais, je sais que les gars, il y en a qui sont complexés. Quand j'étais très jeune, ils étaient complexés par leurs cheveux. T'sais, ils perdaient leurs cheveux très jeunes. Puis à un moment donné, c'est devenu à la mode les cheveux rasés. Fait que tout le monde se faisait raser. Puis ces gars-là se faisaient plus écœurer.
Ouais.
Là, il y a des nouvelles techniques là, qui ont commencé à sortir, qui sont de plus en plus à la mode pour les gars qui sont chauves.
Il y
en a qui montent en Turquie pour s'en faire
implanter,
mettre.
Là.
Mais je parlais avec la propriétaire des cliniques Viva.
Oui, ben oui, ils font du PRP, eux autres.
Ouais, c'est ça. C'est le genre de truc qui t'insère là, dans la calotte crânienne, puis ça aide ton cheveu à pas quitter le building.
Mais
ou
ça,
encore
c'est...
même, des fois, il y a une petite repousse qui commence.
C'est vraiment particulier. Tu as plein de techniques en passant là, pour les cheveux, là, mésothérapie, tu as plein d'affaires, mais une des techniques, puis je pense que c'est celle-là chez Viva, si je me trompe pas, ça prend une infirmière parce qu'en fait, ça prend une prise de sang. Puis là, on sépare, dans le fond, ton plasma de ton sang et c'est ça qu'on réinjecte dans ton cuir chevelu qui va stimuler la pousse. Je te fais ça vraiment facile.
Ouais.
Puis écoute, ça fonctionne tant pour beaucoup de gens, puis ça enlève effectivement des gros complexes.
C'est ça. Mais pour les gars, les complexes, je pense que c'est plus les cheveux. Ce qui est visible. Peut-être que, ouais, la grosseur du pénis, là,
ben, la forme
ça revenait
aussi,
souvent dans le temps.
Ça,
mais les filles, vous êtes dures à votre égard, là.
Oui, je pense que tu as raison, mais
puis,
je...
Tu sais, des fois, je regarde les filles à la maison, là, sont toutes sur Instagram, puis regarde les autres filles, puis « Ah, mon Dieu, elle est donc bien mince, puis ah, mon Dieu, elle est bien faite, ah, c'est une belle coiffe. » Vous vous comparez constamment.
Oui, puis c'est difficile parce qu'on est consciente.
Alors que nous autres, on a juste une d'en face.
Oui, non, mais je sais, mais... Puis je pense...
On vous compare jamais.
Franchement, ouais, c'est ça. Fais-moi croire que c'est vrai. Non, mais je pense que tu as raison. J'ai juste l'impression qu'on est consciente quand on regarde ces réseaux sociaux-là que c'est pas vrai. Des fois, il y a du Photoshop. Des fois, on est. Tu sais, puis tu t'arranges aussi quand tu prends une photo pour les médias sociaux. Mais malgré ça, je pense que c'est un tout. C'est ce que les photos dégagent. Et on dirait que tu aimerais ça, toi aussi, puis ça dégage du positif. On dirait que tu as le goût, toi aussi, d'embarquer dans cette parade-là. Fait que oui, on a le comparatif très facile.
Mais c'est sûr que des fois, les gens sont pas dans le mood. Tu sais, des fois, je regarde une histoire d'amour, là. Mettons, ma blonde est en train d'écouter sa série, là. Puis là, c'est une grosse histoire d'amour, les gens se frenchent à chaque fois qu'ils se croisent et tout ça. Puis nous autres, on est lundi soir après souper.
Ouais. Puis là, on se compare.
Elle était foirée sur le divan. Puis moi, j'étais en train de faire mes nouvelles pour le lendemain matin. Puis elle regarde ça, puis elle dit, mon Dieu, c'est donc bien beau l'amour.
Oui. Ouais, mais t'as raison, moi, ça, c'est mon plus gros problème. C'est pour ça que je regarde pas de série. Mon chum, il veut pas. J'ai eu le malheur d'écouter Bridgerton, puis là, j'avais plein d'aspirations, tu comprends, intimes. Puis mon chum, il était comme, c'est pas réel, Audrey.
Oui. J'ai eu des blondes, moi, qui avaient, quand ils allaient dans des soupers de filles, ils ramenaient les problèmes qui n'existaient pas à la maison.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Ils se trouvaient des problèmes dans l'autre maison. Exemple, je sais pas, moi, on avait une maison ensemble, puis là, elle allait chez une de ses amies de filles, puis là, elle voyait quelque chose d'exceptionnel qu'il avait fait dans cette maison-là. Là, elle revenait, puis là, elle me disait, « Hey, j'aimerais savoir telle affaire. »
Non, mais là, ça se crée des besoins.
Oui, mais moi, c'est parce que c'est une liste qui s'accumulait, là.
Oui, mais vous êtes pareil. J'avais attends, là, c'est pas juste féminin, ça, là.
Après ça, le chum de Catherine a fait telle affaire. Il me semble que toi, ça fait longtemps que t'as rien fait pour moi, tu sais.
Ah non, là, mon Dieu, OK,
j'ai pas la tondeuse hier, chérie.
Ah, mais ça, t'as raison, ça, faut que je te le donne. Tu vois, je m'ostine souvent avec mon chum là-dessus parce qu'à la maison, c'est moi qui s'occupe du ménage, mettons. Je m'occupe majoritairement de... C'est moi qui pense à laver la toilette, tu comprends, laver les bas de mur, laver les plaintes de chauffage. Lui, il pense pas à ça, jamais. Puis je trouve ça insultant comme pas possible.
Laver les plaintes de chauffage?
Ben oui, laver les plaintes en bas, là.
Moi, je mets le chauffage au fond, ça brûle, puis après ça, c'est bien correct.
Non, mais ça pue, c'est pas le fun. Mais non, mais ça s'accumule la poussière.
Les fenêtres,
mais franchement, non, mais il faut que tu laves tes bords de fenêtre aussi. Tu comprends? Mais c'est quelque chose que lui ne voit pas. Puis souvent, on s'ostine là-dessus, puis il finit par me dire, ben oui, mais tu penses-tu au fait que quand l'hiver arrive, c'est moi qui range tout dehors? Tu penses-tu au fait que c'est moi qui passe la tondeuse dehors, qui s'occupe de telle affaire pour l'entretien autour de la maison, mettons? Puis on dirait que c'est pas des choses qu'on voit. Peut-être que je suis seule là, de fille, là, mais moi, je vois pas ça. C'est comme si ça n'existait pas, c'est en dehors de la maison. L'important, c'est en dedans.
Hey, tu vois, moi, je me suis aperçu qu'il y a des choses qu'on faisait pas quand la compagnie de ménage qui vient chez nous aux deux semaines a passé puis j'étais là. Tu sais, ils font absolument tout. Là.
Oui.
Les moulures que tu as au plafond, là. Tu sais, ils font ça, ils passent un balai là-dessus. Moi, j'ai jamais fait ça. Là. Depuis le temps que j'ai des maisons, j'ai jamais fait ça. Eux autres, ils font ça, sont hyper minutieux.
Les portes d'armoire.
Mais c'est peut-être juste parce qu'on fait ce qu'on pense qu'on doit faire. Là. Le principal, là. Les surfaces puis les planchers.
Je pense qu'il y a une question de temps aussi. Ouais. Là. C'est sûr, à un moment donné, tu fais des choix. Tu sais, moi, tant que, mettons, que le bain, la douche, les toilettes, les éviers pleins de crachats puis les miroirs sont lavés. Là.
Mais ça part du fait que quand vous allez dans des soupers de filles, des fois, vous ramenez des...
Ah ben oui, ça porte
des
tout le temps
de
ça.
À la maison.
Moi, tous mes problèmes partent de mes soupers de filles.
Ouais.
T'as entièrement raison.
T'as l'impression que ça allait bien avec ta blonde, là, va dans un souper de filles, là, finalement, elle est en grosse remise en question.
Si tu te confortes là-dedans.
Les autres, ils vont en vacances trois fois par année. Pourquoi nous autres, t'as fait trois ans qu'on y a pas été?
Hey, mon Dieu, je suis tellement pas de même, par exemple.
Tu m'aimes-tu un peu moins? Non, non, c'est juste qu'on n'a pas d'argent pour ça, chérie.
Moi, le seul problème mental que j'ai, c'est vraiment ce que je vois à TV.
Ouais.
Quand c'est trop cute, là, à TV, ces écrans, puis on dirait que je compare ça à ma relation, puis je sais pas pourquoi je fais ça, là.
Un petit chum en bobette qui est avec ses petits chips au fromage.
Ses bobettes trouées, là, tu sais, là, ouais, avec la barbe à moitié, c'est ça, là, quelque chose de vraiment pas cute. Tu sais, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, ça paraît.
Ah ouais, c'est ça.
C'est moins romantique que ça l'était au début, mettons. Là.
Ouais, il te considère comme acquise.
Hey, dis-moi pas des affaires de même, je vais revenir avec des arguments à maison. Attention, c'est toi et la chum de fille, là.
C'est 5 degrés sur Québec, il pleut. C'est de la brune intermittente pour une bonne partie de la journée, c'est ce qu'on nous mentionne. Peut-être que chez vous, ça a déjà cessé. Québec, ça semble avoir arrêté dans les dernières heures. Pour de la pluie pour ce soir, même brune intermittente encore, avec des petites rafales entre 50 et 80 km/h ce soir. Donc, ça va brasser, température stable à près de 6 degrés. Pour ce qui est de demain vendredi, ce sera de la pluie intermittente avec une température stable à plus de 5 degrés. En soirée, de la pluie intermittente toujours minimum de plus 3. Pour ce qui est du week-end, on nous annonce de la pluie. Donc là, si vous cherchez le soleil, on ne le verra pas avant un petit bout de temps. On me dit sur les radars d'Environnement Canada, ce serait lundi pour le retour du soleil avec un maximum de plus 3 degrés.
Si au moins c'était de la neige.
Oui, 418-971-1021. Si vous voyez quoi que ce soit sur la route, les amis, vous êtes nos yeux, nos oreilles, ça vous tente de jaser, c'est par texto. Vous êtes aussi sur Twitch. Est-ce que le Twitch est branché?
Oui, il est allumé. Ouais. J'ai eu de la misère à l'allumer au début. Je pense qu'il y avait comme des bugs, mais là, techniquement, on est là puis tout est beau.
Donc voilà, puis aujourd'hui, on a une grosse émission.
On a une très grosse émission. Ça fait un bout déjà, quelques semaines qu'on en jase, qu'on veut faire ça. Là. L'idée est venue, en fait, de parler de santé mentale dans le domaine de l'agriculture parce que Hello Dairy m'a partagé un balado qui s'appelle Run de lait, qui a été fait par Radio-Canada. En gros, c'est Justin Laramé, qui est un auteur, un comédien, qui s'est lancé dans cette run de lait-là. Le principe, mettons, d'acte en acte, là, d'épisode en épisode, parce que c'est un théâtre documentaire. C'est assez particulier, honnêtement, comment c'est fait. Là. C'est différent, mais c'est vraiment, vraiment bien fait. Et lui rencontre des producteurs, des transformateurs, rencontre aussi politiciens pour voir qu'est-ce qui fonctionne pas ici, voir la réalité aussi des gens sur le terrain. Tu sais, c'est un emploi sur 8 au Canada qui est dans le secteur agricole et agroalimentaire. Puis ce qui revient dans un des premiers épisodes qui m'a complètement jeté à terre, c'est le fait que la santé mentale est un énorme enjeu dans ce domaine-là. Tu sais, dès le premier épisode, en fait, on nous parle d'une ferme laitière où le propriétaire s'est enlevé la vie après des complications avec la ferme, avec son troupeau. Puis c'est tellement bien fait, tu te sens émotivement attaché, je vais dire, à ce que tu entends. Il y a une ambiance dans ce balado-là. Ce n'est pas juste une histoire qu'on te raconte. Fait que c'est super bon. Un, je vous le conseille. Mais deux, ça nous a amené à vouloir jaser avec deux personnes aujourd'hui. La première, vous la connaissez, c'est David Simard, des faits de la ferme Simard. Ce n'est pas la première fois qu'on lui jase. Autrement, le chum d'Hello Dairy, qui va venir nous jaser justement de lui personnellement, comment il a vu cette santé mentale-là à travers ce processus-là, puis à travers son travail au day-to-day.
Est-ce qu'il est dans le balado?
Non, il n'est pas dans le balado, mais connaît, par exemple, la personne qui s'est enlevée la vie, entre autres. Puis, tu sais, il faut dire que le balado, on parle vraiment des fermes laitières. Mais là, c'est plus large que ça, la santé mentale, là, au niveau des agriculteurs au Québec. Puis après ça, on va jaser avec une autre personne qui est Martine Fraser, qui est travailleuse de rang. Puis moi, ça, c'est un métier que je ne connaissais pas pantoute, mais ces gens-là servent justement à aider au niveau de la santé mentale. Ouais. Pour
c'est
les
comme des travailleuses de rue au centre-ville.
Exactement.
Dans travailleuses de rang pour... T'as tout compris. Les agriculteurs.
Fait que ça va être super intéressant. Puis écoute, parce que c'est un gros show, on va commencer ça maintenant avec Jean Leloup.
Ah, merci beaucoup. Oui, Jean Leloup, voyageur sur Boulevard. À tous, un excellent jeudi. C'est jour de paye pour Audrey.
Tabarnouche, j'ai plus une scène.
Ça va bien. Ça va être un beau sujet, Audrey, sujet qu'on va aborder dans les prochaines secondes. Bien sûr qu'on va parler de santé mentale, mais on va parler de santé mentale de nos agriculteurs. Tu as parlé du balado Run de lait, puis il y a des auditeurs qui nous ont écrit en disant « C'est tellement intéressant ça, ce balado-là, Run de lait comme docu. » Pièce de théâtre, je le recommande à tout le monde. Ils vont probablement faire une tournée au Québec, c'est ce qu'on nous mentionne.
Oui, puis c'est vraiment capoté parce que t'en apprends toi-même, même si c'est pas ton domaine, sur ton histoire aussi, sur la place que ça prend. Moi, je me suis rendu compte que j'étais complètement ignorante. Là. Il y a vraiment des affaires que j'ai apprises ce matin en l'écoutant. Puis c'est vraiment pas long. Là. C'est en trois actes. Il y a comme quatre épisodes. Là. T'en as un de 30, un de 40, deux de 25. Là. Ouais, ça passe vraiment vite.
Tu m'as dit que c'était pas très... Tu sais, c'était pas dark. Là. On faisait de l'humour.
Ah non, il y a de l'humour. Ah non, c'est vraiment comique. C'est super bien fait. Fait que t'arrives à te... Puis tu sais, au début, oui, on parle de santé mentale de façon plus lourde, mais après, on explique le pourquoi du pourquoi. On va plus loin aussi. Fait que non, honnêtement, c'est léger, c'est le fun. J'ai vraiment apprécié l'expérience. Puis ça nous a menés au sujet d'aujourd'hui parce que la santé mentale des agriculteurs, je vais dire même au Canada, c'est un sujet qui est connu, que moi, je ne connaissais pas. Tu sais, je te sors une couple de stats. Là. Tantôt, je t'ai dit, un emploi sur 8 au Canada est dans le secteur agricole agroalimentaire. Ils ont fait un sondage auprès de plus de 1100 agriculteurs. 35% répondent aux critères de dépression, 58% aux critères d'anxiété, 45% étaient super stressés. Puis il y a 40% qui n'étaient pas à l'aise de demander l'aide d'un professionnel, ce qui est un foutu problème. En toi puis moi. Là. Mais pour jaser de ça, il n'y a personne de mieux que quelqu'un qui le vit au quotidien, ce stress-là, puis qui gère une ferme. La ferme Simard, ce n'est pas la première fois qu'on vous en parle. On a David avec nous qui est là ce matin.
Salut David, pas de surprise pour toi, tout ce qu'on a appris dans ce balado-là?
Non, aucunement. Là, c'est très connu dans le milieu, puis c'est de plus en plus d'actualité.
T'expliques ça comment qu'on en soit rendu là aujourd'hui en 2024 d'être obligé de dire au gouvernement « Faites attention à nos agriculteurs, essayez d'avoir plus de ressources psychologiques pour nos agriculteurs. » Comment ça se passait dans le temps? Ils se soignaient autrement? Ils prenaient plus d'alcool? Je sais pas.
Ben, tu sais, la vie va vite, hein, en 2024, c'est dans tous les domaines, là, on vit rapidement, on a toujours le téléphone en main, on accomplit énormément de choses, puis on a un rendement à donner. J'avais déjà posé la question à mon père, comment il faisait dans le temps, tu sais, tout se faisait à la main, comment est-ce qu'il a... Mais il dit, tu sais, dans le temps, là, il gagnait ce qu'il gagnait, il nourrissait leur famille, puis le dimanche, il travaillait pas, il allait à l'église, puis... Dans la semaine, ils faisaient leur ouvrage, puis s'ils finissaient pas aujourd'hui, ben ils finissaient demain, puis tu sais, c'était moins... Il y avait moins les finances d'impliquer, il y avait moins la pression de réussir, il y avait peut-être pas autant de moyens que nous, mais c'était une agriculture de subsistance, tu sais.
Tu as écouté le balado Run de lait, puis tout ça est parti de là. Qu'est-ce qui t'a bouleversé dans l'écoute de ce balado-là? Parce que ça m'est venu aux oreilles que ça t'a quand même jeté à terre, là.
Ouais, moi, j'ai cassé direct en partant. C'est ça, ce qu'il faut savoir, c'est que ça commence par une personne qui témoigne un peu des événements qui ont mené au suicide de son conjoint. Puis c'est des gens de ma région, c'est pas des gens proches de moi, mais tu sais, veux pas, c'est une petite communauté, on se connaît toutes. Ce qui m'a bouleversé, c'est pas la séquence des événements, c'est pas qu'est-ce qui est arrivé, c'est moi, ça fait une dizaine d'années, je me rappelle comment je me sentais quand je suis allé à ses funérailles, puis j'avais 20 ans, j'étais plein d'énergie, je commençais dans le métier, puis j'avais beaucoup de questionnement, d'interrogation, d'incompréhension sur ce qui pouvait amener quelqu'un à poser un geste comme ça, tu sais. Puis ce qui m'a tapé le plus dans la face en écoutant le témoignage, c'est que, tu sais, une dizaine d'années après, j'ai 31 ans, j'étais un père de famille, puis je le comprends, tu sais. Je le sais, qu'est-ce qui peut mener à ça, je le comprends. Tu sais, je connais la trail. Si je peux pas dire que j'ai eu d'enjeux de santé mentale, j'ai pas eu d'épisode dépressif, j'ai pas eu de problèmes, j'ai pas eu besoin de consulter, mais ça m'a fait rendre compte que je suis vraiment pas à l'abri de ça parce que la trail, je la connais. T'sais.
C'est quoi la trail?
Ben, c'est des années. C'est un paquet de petites choses, t'sais, les facteurs qui peuvent détériorer une santé mentale dans la société, c'est à peu près les mêmes pour tous. T'sais. C'est juste qu'il y en a plusieurs, il y en a peut-être 8, 10. C'est juste qu'en agriculture, je pense qu'on est exposé à plusieurs de ces facteurs-là de manière importante. Puis l'accumulation de tous ces facteurs-là ensemble, ça fait qu'au bout de 10, 15, 20 ans, tu n'es plus toi.
Tu es peut-être à bout un peu.
Moi, j'ai... Personnellement, si tu me demandes ma santé mentale, es-tu mieux que là 5 ans? Je vais te dire non. Là. Ça s'est détérioré. C'est mineur. Mais puis heureusement, on vit dans une époque où on est très sensibilisé à ça, où c'est pas tabou d'en parler, où c'est pas un signe de faiblesse, mais c'est plus un signe de force que de parler de ces choses-là. Fait qu'on est chanceux, tu sais. On peut s'en apercevoir avant qu'il soit trop tard, mais...
Mais c'est ça, il y a une différence de génération. Là, nous autres, on est un peu plus portés à parler, puis on sait qu'il y a des ressources d'aide qui sont là, qui sont disponibles sans jugement. Dans le temps de nos parents, de nos arrière-grands-parents, c'était un petit peu plus difficile. T'sais. Les ressources n'étaient pas là, puis ils se comparaient beaucoup de famille en famille.
T'étais pourvoyeur aussi, comme homme de ferme. Il voulait montrer qu'il était
fort. Puis il y avait beaucoup d'alcoolisme. Là. On se demandait pourquoi ça fêtait autant pendant le temps des fêtes. C'était juste pour essayer de passer au travers de tout ce qu'il avait vécu dans les derniers mois, j'imagine, là, à se défoncer pour essayer de se soigner d'une quelconque façon puis relâcher les tensions. Là.
C'est sûr et certain qu'il y a encore des problèmes de drogue et d'alcoolisme dans le milieu, là, c'est évident. Là.
Ils se soignent comme ça?
Ben, ils se soignent comme ça, ou des fois, il y en a qui se tournent vers ça pour performer plus. Je veux dire, des fois, des journées de 10-12 heures, c'est comme... Moi je me considère pas comme un agriculteur qui travaille de manière extrême, mais disons que je suis peut-être dans la moyenne ou un petit peu en bas de la moyenne des agriculteurs, mais je pas mal au-dessus de la moyenne, mettons, dans de la société en tant que telle. Des fois, c'est fou qu'est-ce qu'on fait. Là. Il y en a que, bon, c'est pas long de se gober une ou deux pilules puis faire des 24 heures.
Tu
sais, c'est une solution facile. Là.
Tu sais, David, nous, on se connaît personnellement aussi, là, mais juste pour les gens, mettons, qui ne savent pas. Parce qu'en écoutant le podcast ce matin, il y a une chose que j'ai réalisée, c'est que bien des affaires. J'ai réalisé pas l'ampleur de la job, mettons. Tu sais, dans le sens que je sens qu'on romance des fois le fait d'être agriculteur ou d'avoir une ferme, d'être à la maison, d'avoir ses animaux, de produire. Ça a donc bien l'air beau, tu es avec ta petite famille sur ta terre. Tu sais, il me semble qu'on embellit beaucoup la job. Tu peux-tu juste peut-être nous rappeler exactement l'ampleur de ce que tu fais comme agriculteur?
Bien, tu sais, c'est il y a plusieurs points, puis oui, c'est une belle job, puis ces points-là sont là, c'est juste qu'à un moment donné, actuellement, en 2024, la pression financière sur les fermes est énorme. Tu sais, puis particulièrement les agriculteurs de la relève, ceux qui achètent des fermes, en ce moment, les fermes se transigent à peu près à 22 à 25 fois les profits. Donc, si tu t'embarques dans une ferme, disons, qui génère un 100 000 $ de profit par année, ça va te coûter 2 millions et demi. Mm. Tu sais, les paiements de ça, faut pas que tu aies une mauvaise année, faut pas que tu skips, faut que tu goal, là. Puis, ben, comme on le sait, il y a des changements climatiques, on les vit beaucoup. L'an passé, on les a vécus de manière extrême au Québec, partout, particulièrement dans mon domaine, dans le maraîcher. Ça amène une pression énorme. Tu sais, ça... Moi, l'an passé, j'ai perdu du 100 000 $ là, tu sais, je veux dire.
Ça paraît, là.
J'ai perdu le profit des trois années avant, là. Fait que je me retrouve au bout de 4 ans à break-even, il faut que je continue à faire mes paiements, tu sais. J'ai pris la relève de mon père, j'ai acheté, tu sais, j'ai des dettes énormes, fait que... Puis là, ça, c'est moi, c'est mon histoire, mais je veux dire, on est tous dans le même bateau, là. Tous ceux qui ont... Des agriculteurs libres de dettes en bas de 40 ans, j'en connais pas, là. Mm.
Ça fait-tu partie de la pression, ça, le côté familial, intergénérationnel? Il y a comme un bagage émotif, j'ai le sentiment avec ça. Fait que tu veux pas, comme jeune agriculteur, dire « moi, je lâche tout ça quand ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père a mis sa vie là-dedans? Là. »
C'est un point majeur. Je te dirais que si tu parles à des hommes d'affaires en dehors de ce domaine-là, ils vont te dire « business is business, si tu as ton prix, tu vends, puis il n'y a pas trop d'émotions là-dedans, puis... » Les fermes, il y a tout le côté émotif, sentimental, parce que c'est aussi une affaire familiale. T'sais, on a passé d'une agriculture de subsistance où ça se passait de génération en génération, puis toi, tu tombes en 2024 où c'est plus ça, il faut que tu génères, c'est rendu une business, il faut que tu génères du profit, puis il faut que tu vives, puis il faut que tu fasses vivre tes employés, puis ça. Tu arrives au bout de 7-8 générations, tu n'as clairement pas envie d'être celui-là qui plante la patente. Puis c'est pas tout le monde qui l'a, cette pression-là, puis qui se la met, mais je pense que...
Toi, ça joue-tu dans balance?
Ça a joué. Ça a joué dans balance du fait que tu sais, je suis fier d'avoir repris ça de mes parents. Mes parents ont travaillé extrêmement fort pour monter ça, puis tenir ça aussi, puis avoir une entreprise qui est profitable, qui est bien, puis qui est pour que je puisse en vivre, tu sais. C'est pas un point majeur pour moi, c'est pas énormément de pression pour moi, mais...
Mais tu comprends plus ce qu'ils ont vécu.
Je comprends absolument ce qu'ils peuvent vivre. Puis tu me dirais demain matin, ouais, ça, si ça va pas bien, tu mets une pancarte à vendre là-dessus? Non. Je vais faire tout ce que je peux pour garder le patrimoine familial debout, tu sais.
Tu pourrais-tu vendre demain matin puis faire de l'argent avec tout ça?
Ben oui.
Reprendre tous tes profits? Ou tout ce que de l'argent que tu as perdu.
Tu sais, souvent, on se fait dire « Ah, mais tu sais, vous faites pas beaucoup d'argent, les agriculteurs, mais vous avez une valeur énorme. »
Oui, c'est ça.
Oui, on a une valeur, on a une valeur énorme. Puis c'est une partie du problème aussi, tu sais, le prix des terres. Les maisons ont monté plus vite que l'inflation dans les 20 dernières années, puis les terres ont monté plus vite que les maisons. Là.
Exact.
Donc, ça a explosé les valeurs, puis quand il y a le temps de racheter ou de reprendre, c'est là qu'on s'endette fortement. C'est sûr que quand tu vends... T'as un beau chèque, si t'es capable de vendre le prix que ça vaut, c'est plusieurs millions. Mais tu veux gagner ta vie avec ça, puis tu veux pas vendre le patrimoine familial. Tu veux en vivre, tu veux gagner ta vie, tu veux que tes enfants puissent gagner leur vie. T'sais. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a une annonce de Visa où les gens paient toutes leurs transactions avec des carottes. Là, ça a passé récemment. T'sais. Puis je me disais, t'sais, si c'était comme ça, la vie, ce serait facile. T'sais, payer son épicerie avec une pelletée de terre ou avec une branche d'arbre, on serait tous millionnaires. T'sais. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. T'sais. Puis ces gros actifs-là qui valent énormément d'argent, ben quand t'as de la misère à générer des liquidités avec, t'es au point mort quand même.
T'sais. T'as-tu l'impression que tu vas être rentable à un moment donné? T'sais, t'as-tu le sentiment que ça va venir? Est-ce que tu calcules ça peut être à peu près dans combien d'années?
Bien, tu l'as toujours, l'espoir, tu sais, tu travailles dans ce but-là, d'être rentable, de pouvoir au moins, du moins, payer, faire tes paiements, gagner ta vie, c'est ça l'objectif, tu sais, il n'y a personne, tout le monde sait qu'ils ne se mettront pas riches avec ça, c'est évident. Mais par contre, en ce moment, les marges sont super minces, tu sais, puis on parle de santé mentale, bien, l'aspect financier, je te dirais, c'est probablement à top of the list, tu sais. Puis après ça, ben, on a une immense pression sociale aussi. Ça, c'est un gros point majeur qu'on n'a peut-être pas effleuré au niveau de la santé mentale. Mais la pression sociale qu'on a en tant qu'agriculteur de faire nos produits selon les valeurs des gens, parce que nos produits, veut pas, ils touchent 100% de la population. Fait qu'il faut que tu répondes à 100% des valeurs de la population québécoise. Fait qu'il faut que tu sois économique, faut que tu sois environnementalement raisonnable, acceptable. Au niveau du bien-être animal, il faut que tu sois ça à coche. Tu sais, il y a quelques années, il y a des gens, des activistes véganes qui rentraient dans une grange pour détacher les vaches, puis que, tu sais, dans des exploitations agricoles, tu sais, il y a des agriculteurs qui ont vécu avec cette pression-là, tu sais. Des gens qui rentrent dans un poulailler pour vouloir libérer les poulets puis les poules. Tu sais, moi, en tant que maraîcher, combien de fois j'ai été dans un marché public où des gens sont venus me faire un grand monologue sur l'utilisation des pesticides, puis que je devrais pas faire ça, puis que je devrais pas, que je devrais être bio, que je devrais faire ci, en sachant pas de quoi ils parlent. C'est une pression supplémentaire qu'on a sur nos épaules que des fois, tu te dis, bon, c'est mineur, c'est un commentaire, tu ne l'écoutes pas. Mais quand ça fait 10 ans que tu te fais passer des commentaires ou que tu vois des gens des médias bâcher sur ce qu'on fait ou, tu sais, cette pression-là...
On comprend plus dans le temps, il est tiré au gros sel.
Ben, tu sais...
Non, mais c'est vrai, c'est irritant. Puis tu as un méchant point. On ne sait pas de quoi on parle. On est zéro éduqué par rapport à ça.
Non, puis nos moyens de communication sont extrêmement rapides puis sont instantanés. Tu sais, la personne qui trouve, je sais pas moi, un cocombe poqué dans sa commande, elle peut m'écrire tout de suite, m'envoyer ça pendant que je suis chez nous avec ma fille en train de faire mes affaires à la maison. Puis
son
je
cocombe
vois,
est poqué.
Son cocombe est poqué, puis c'est émotif parce qu'elle l'a payé cher, selon elle. C'est son argent, ça la fait chier. Mais au lieu... Elle va me dire des affaires qu'elle ne me dirait pas en pleine face, qu'elle prendrait même pas le temps de me téléphoner pour me dire, mais elle va m'envoyer un message de merde pour un cocombe à une pièce. Tu sais... On vit avec ça, puis il y a beaucoup d'agriculteurs qui vivent avec ça, puis ben ça rentre dans les critères là, ouais. de santé mentale.
La main-d'œuvre, David, il y a de moins en moins de Québécois qui veulent travailler aussi fort que toi, tu travailles, tu es obligé d'aller la chercher à l'extérieur. Le gouvernement, as-tu facilité les choses pour vous rendre ça le moins compliqué possible, ou c'est encore, il y a beaucoup de travail à faire là-dedans?
Ben heureusement, on a les agences.
Ouais.
Tu sais, on a des agences, on paie des gens pour s'occuper de toute la charge administrative que c'est que de faire venir des travailleurs, tu sais. Mais sinon, on serait pas capable. Il y en a quelques-uns qui le font eux-mêmes, mais tu sais,
c'est compliqué.
Oui, c'est compliqué. Puis, tu sais, il y en a plein de Québécois qui sont super travaillants. C'est juste qu'on n'est pas capable de les payer. Tu sais, on aurait des Québécois ces fermes si on était capable de donner 30-40 piastres de l'heure, tu sais. Non, c'est impensable de faire ça puis de continuer à avoir des produits à prix raisonnable ces tablettes, tu sais.
Mais qui fait l'argent? C'est peut-être une question full niaiseuse, là, on dirait que j'essaie de comprendre, mais tu sais, quand tu achètes tes fraises, je vais prendre les fraises du Québec, tiens, tu sais, des fois, je veux dire, on se dit qu'elles sont chères ou que... Mais si c'est pas vous qui faites le profit directement, comment ça marche?
Tu sais, on pourrait partir là, là-dessus.
Ouais, c'était fini, là.
La consommation a changé énormément dans les 50 dernières années au Québec, au point où ce qu'il y a one stop pour la bouffe, c'est les supermarchés. Mm. Puis, veux pas, les gens sont drainés là-bas, fait qu'eux, ils ont un peu le monopole. Tu sais, il y a 5 grandes chaînes au Canada, ils contrôlent 35 millions de populations. Je veux dire, il y a à peu près 90% de la nourriture qui vient de ces chaînes-là. Fait que les intermédiaires en ramassent beaucoup. Puis, tu sais, t'as presque aucun produit en supermarché qui arrive directement de chez le producteur. Presque aucun. C'est je ne sais pas le pourcentage, mais c'est probablement en bas de 5%.
Il y a toujours des intermédiaires.
Il y a toujours des intermédiaires et il y a toujours, souvent, pas un seul intermédiaire, tu sais. Fait que là, tu vas avoir un distributeur, tu vas avoir un paquet d'affaires, tout le monde pige dans le sac. Ouais. Puis, ben il y a une couple d'années, il y a eu une commission fédérale pour amener les patrons des grandes chaînes pour expliquer comment ça se fait que les profits explosaient après la pandémie. T'sais. Puis on dit, ben les profits explosent, c'est pas parce qu'on fait trop d'argent, c'est parce qu'on est très... on est très optimal dans nos opérations, mais tu sais, c'est pas vrai que tu imprimes 10-12 milliards par année en étant juste optimal. Il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui perd quelque part. Là, la marge de profit agricole a extrêmement diminué dans les 3-4 dernières années pendant que le panier d'épicerie a explosé. Fait que quand les gens sont pas contents ou que tu sais, ils payent plus cher leur épicerie, ben les premiers gens vers qui ils se retournent,
c'est vous autres, mais c'est
les
pas,
premiers
c'est pas
pointés
de votre
du doigt,
faute.
C'est nous, là, tu sais. Puis, dans, je te dirais, 95% des produits agricoles, c'est pas nous qui décidons des prix, tu sais. Ça va être les intermédiaires ou ça va être des fois l'autorité des marchés agricoles. Tu sais, le prix du lait n'est pas déterminé par les producteurs de lait, tu sais, il est déterminé par un organisme indépendant. Tu sais, le prix du porc il est déterminé par le marché mondial. Tu sais, les fruits et légumes, ben, on est influencé beaucoup par les États-Unis. Puis les grandes chaînes souvent vont déterminer les prix qu'ils vont donner aux producteurs pour les fruits et légumes. T'sais, les fraises, c'est négocié avant la saison.
Ah oh, ouais.
C'est négocié très, très, très serré. Là.
C'est
avant la saison.
Oui, oui, avant la saison, les grandes chaînes s'assoient avec les producteurs, l'association des producteurs, puis ils négocient les prix pour la saison.
C'est pour ça que des fois, ils sont lettres, mais ça coûte cher pareil.
Ouais, mais il y a des mauvaises années pour les fraises.
Ben, des fois, il y a des mauvaises années, mais on ne le sait pas d'avance. T'sais, l'an passé, ça a été une année exécrable. Les prix étaient négociés d'avance. Fait que ce qui est arrivé, c'est que bon, le marché est tellement... Il y a tellement rien sur le marché que, bon, les chaînes n'ont pas le choix de payer à un moment donné, là, mais, tu sais, ils n'étaient pas capables d'honorer leurs spéciaux. Fait que là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ah, ben en raison de la météo, on n'est pas capable d'honorer notre spécial. Tu sais, ils ont le beau jeu, là, le client est quand même attiré dans la succursale par le prix alléchant. Pendant ce temps-là, il n'y a pas de fraises au Québec. Fait que là, il voit ce prix-là, il capote. Il arrive en magasin, il voit une pancarte, on ne peut pas honorer notre spécial à cause que les producteurs ont manqué leur coût. Tu sais, c'est un peu ça que ça veut dire.
Mais on devrait tellement avantager les produits locaux. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est que tu vas... Puis on donne un exemple qui n'existe pas. Là. Tu vas chez Walmart, tu as un panier de belles fraises du Québec, puis tu as un panier qui vient d'ailleurs, qui a franchi des centaines et des milliers peut-être des millions de kilomètres avant d'arriver là. Puis tu te dis, mais comment ça que la fraise du Québec est plus chère? Mm. Puis j'en veux pas, moi, la personne qui dit, moi, Yann, j'ai pas d'argent, là, j'ai pas le choix de prendre le panier moins cher, mais... Faut être consciencieux, puis on devrait tellement mettre l'accent sur nos produits chez nous, puis qu'en bout de ligne, c'est pas tout le monde, tu sais. Au lieu d'avoir 18 intermédiaires, on pourrait juste en avoir un ou pas pantoute.
Mais c'est
avoir...
la qualité supplémentaire.
Parce qu'au même prix, je pense que les gens ont le bon réflexe, là, c'est d'acheter Québec, là, la plupart du temps.
Ben oui, puis tu sais, c'est une vertu que... Tu sais, 90% des gens sont pour l'achat local, puis sont vraiment derrière nous là-dedans, puis tu sais, c'est correct, mais quand vient le temps... De parler, c'est 90%. Quand vient le temps de payer, ça baisse à 60, 70. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Je suis allé dans un restaurant de Québec, une super bonne table à Québec, je ne nommerai pas. C'est le temps la fin de la saison des fraises, c'est encore disponible. On a un automne qui est magnifique, fin septembre. Tu sais, je commande un gâteau au fromage, il y a des fraises américaines dessus.
Tu es capable d'y reconnaître?
Ben oui. C'est, je veux dire... T'as pas une fraise au Québec aussi exécrable que ces fraises-là, là, tu sais, je veux dire... Fait que j'ai ça. Tu sais, moi, je viens de finir ma saison. Je suis comme, hey, il y a encore des fraises disponibles. On a encore plein de produits disponibles.
Tu poses-tu la question dans ce temps-là à savoir pourquoi ils vont pas vers des produits du Québec?
Tu sais, les produits américains sont disponibles et sont moins chers chez les distributeurs, tu sais. L'an passé, les laitues étaient super rares parce qu'on a eu une année exécrable. Tu sais, j'appelle un distributeur, je dis, t'es-tu capable de me dépanner avec des laitues du Québec? J'en ai de vendues, puis j'ai perdu les miennes. Ben, il me dit, la laitue du Québec en ce moment n'est pas trouvable, ben, super rare. Fait que j'ai de la belle laitue américaine pas trop chère. Mais c'est pas dans mes valeurs, là. Fait que j'ai cancellé mes commandes. J'ai fait comme, ben, je suis pas pour vendre des laitues américaines. Ça n'a pas.
Ça marche pas.
C'est carrément contre mes valeurs. Mais quand c'est un restaurateur qui appelle et qui a ça sur son menu, il a pas le choix. T'sais. C'est comme, bon, lui, il en a en stock des laitues américaines. Je vais les acheter, puis that's it, là, tu sais.
Fait que ouais,
c'est l'argent qui mène le monde.
Oui, puis on pourrait bien les critiquer, mais probablement qu'on aurait un restaurateur avec nous, puis je veux dire, on pourrait comprendre que le portefeuille, c'est difficile aussi. Ouais. Là,
absolument, mais ce même restaurateur-là va te dire, ah, moi, les produits locaux, c'est 110%. Mais tu comprends,
ouais,
tu arrives, tu viens de travailler tout ton cœur dans quelque chose, tu viens de. Puis tu prends ton argent, puis tu sais, restaurant, pas donné. Pis...
Donc, faudrait diminuer les intermédiaires?
Ben, tu sais, je pense que. Puis, tu sais, mettons, là, on s'était garé un peu de la santé mentale, puis tout ça, là, mais En 2020 et 2021, durant la pandémie, là, mon ordre, c'était l'achat local, l'autonomie alimentaire puis les produits du Québec. Ouais. On s'est reviré vers notre économie locale parce qu'on avait tellement peur que ça crash qu'on s'est concentré sur le Québec. Maintenant que c'est revenu un peu à la normale, on a délaissé ça. Fait que là, c'est... Puis je comprends ça. Là. Les taux d'intérêt sont hauts, le monde arrive serré, on veut économiser au max. Mais je pense qu'on serait plus fort en tant que société si on se retournait vers notre économie plus locale. Quitte à couper du Amazon, puis du Netflix, puis à couper à de l'argent qui s'en va en dehors de la province pour consolider, tu sais, fait les restaurateurs locaux, de la construction locale, tu sais, je veux dire, notre économie serait plus forte si on se retournait un peu sur nous. Puis nous, en tant qu'agriculteurs, ben c'est le nerf de la guerre. Là,
dans 10 ans, il va-tu rester des David Simon? Ben, la grandeur du Québec.
Je vais être encore là mais dans 50 ans, c'est une autre chose. Hein, t'sais. Actuellement, la mondialisation fait qu'on est capable de s'approvisionner partout. T'sais, la bouffe, c'est acquis au Québec. On manque jamais de bouffe. Je veux dire, oui, il y a des gens qui s'y arrivent plus serrés, ils ont besoin des banques alimentaires, puis c'est correct, mais pour le volume total de la population, on n'est jamais en pénurie de rien. Jamais. Mais le jour où certains pays vont décider de fermer leurs frontières et de garder leur bouffe pour eux autres, s'ils ont certains problèmes, nous, on est la région la plus nordique dans l'Amérique du Nord. Là, t'sais. Si l'agriculture, si on continue comme ça, si elle s'essouffle ici, puis que dans 50 ans, il faut recommencer à produire puis recommencer à se nourrir, on va avoir un problème. Là, t'sais.
Fait que comme consommateur, ben, de consommer local, puis là, je veux juste te faire un petit... parce que David, bon, t'as la ferme, mais t'as cuisine Simard, les plats préparés et tout, puis t'as tes paniers de fruits et légumes. Puis quand j'étais dans le bout de Québec, je les commandais, ces paniers-là, tu sais. Puis souvent, je veux dire, il y a des gens qui se disent, ben non, mais c'est la facilité d'aller chercher mes fruits et légumes à l'épicerie. Le maxi est à côté de chez nous, c'est bien plus facile que de me rendre chez mon producteur local qui est un peu plus loin, tu sais. Mais il y en a plus, je parle de toi, mais il y en a d'autres qui le font, là, mais il y a plein de services comme ça où tu peux carrément t'abonner sur Internet. Tu commandes chaque semaine tes fruits et légumes, c'est livré chez vous. T'as pas à lever le petit doigt, c'est facile, 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 et il n'y en a pas d'intermédiaire. Tu commandes directement du maraîcher.
Pis, ça, c'est moi, mais il y en a qui le font dans les viandes, puis tout ça, des belles coupes de viande locale. Mettons, les viandes bio de Charlevoix, ils ont une panoplie de produits de grande qualité, tu sais. Des fois, on se dit, l'épicerie, les formats rapetissent, ça, tu sais, les paniers de fraises sont rendus à 750 ml à l'épicerie, là, mais des paniers de 3 litres, là, ça existe encore, là, tu sais, vous êtes encore capable d'en trouver ailleurs. Ben, c'est pareil dans le poulet, là, tu sais, tu vas payer ton poulet 40$, mais tu vas manger pendant une semaine dedans, tu sais, tu mangeras pas ton poulet toi-même tout seul avec tes frites chez vous, comme... Ouais. De grandes chaînes.
Je vais juste reposer ma question. Dans 10 ans, il va-tu y avoir encore des David Simard, donc des jeunes qui vont dire « Hey, je regarde, là, moi, c'est ce genre de métier qui m'intéresse, où je regarde la vie comme mon père et ma mère, puis c'est le genre de vie que j'aimerais avoir. » T'as-tu l'impression que on va revenir à la Terre? Ou c'est complètement le contraire? C'est-à-dire que là, il y a des gens qui vont dire « Regarde mon chum David Simard qui travaille 7 jours sur 7, là, qui en a plein son casse, qui n'est pas vraiment aidé comme il devrait être. C'est travailler 7 jours, c'est du stock. C'est engageant. Je vais peut-être faire d'autres choses à la place. »
On est déjà là-dedans. Là, tu sais, je te dirais qu'il y a beaucoup de jeunes qui se tournent vers autre chose, qui ont des rêves agricoles et qui n'ont pas les outils qu'il faut pour l'accomplir. Là, ouais. C'est déjà commencé, là. C'est déjà commencé d'avoir des gens qui veulent faire ça, puis que parce que le climat, puis parce que l'environnement le permet pas, ils sont pas capables. Fait, c'est déjà commencé, tu sais. Fait que on a un gros choix de société à faire. On a un gros virage à faire. Puis on a besoin de garder les gens engagés. Puis on a besoin de pouvoir permettre à ceux qui veulent s'engager là-dedans de le faire. Ouais,
ton père t'a-tu dit, quand t'as dit « Père, j'aimerais ça reprendre la ferme », ton père t'a-tu dit « Es-tu sûr? »
Ah oui.
Ouais.
Oui. Parce que tu vois, Yann, moi, je m'en allais dans la prochaine génération. T'as une petite puce extraordinaire à la maison. Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites aussi pour tes enfants, t'sais, sachant ce que ça implique, là?
Tu sais, moi, je le fais au-delà de... Tu sais, une terre, là, c'était une terre dans le temps des dinosaures, c'était une terre dans le temps de la Nouvelle-France. Il y a du monde qui se nourrissait puis qui vivait là-dessus. Puis si les gens pensent comme moi, puis comme nous, les agriculteurs, dans 400 ans, ça va être encore une terre. T'sais. tu fais une bâtisse dessus, c'est une bâtisse, ça a une durée de vie. Un humain, ça a une durée de vie. Une route, ça a une durée de vie. Même une société, ça a une durée de vie. Mais une terre, c'est intemporel, tu sais. Fait que c'est sûr et certain que j'aimerais ça, transmettre ça à mes enfants. Puis mon but, c'est de rendre l'exploitation le plus solide possible, le plus attrayante possible pour qu'ils voient ça comme quelque chose, une opportunité de gagner leur vie, tu sais, et non une opportunité...
Puis ton père, puis ta mère, il hésitait pourquoi quand tu leur as dit
« Ben, je veux dire... »«
Je veux la reprendre, la ferme. »
Mon père, on a une bonne différence d'âge, tu sais. Puis juste avant que je reprenne, tu sais, il était tanné, là, de faire les légumes. Il était brûlé, Puis il me disait, t'es sûr que tu veux faire ça? T'sais, moi, j'étais super bon à l'école. J'aurais pu faire n'importe quoi. Là. Puis il était comme, tu pourrais aller à l'école, avoir une bonne job, avoir une bonne paye. Puis la terre, elle sera là. Puis au pire, moi, il dit, je la vendrai, la terre, c'est pas grave. Là, t'sais. Puis c'était hors de question. Puis t'sais, dans cette période-là, nous, on avait eu, on n'a pas parlé, mais t'sais, des fois, t'as des tuiles qui te tombent sur la tête. Là, mm-hmm. Nous, on avait eu des micro-rafales, on a perdu comme 5-6 000 en taille dans notre érablière. T'sais, mon père avait considéré à ce moment-là mettre une pancarte à vendre, puis il disait, fuck it, moi, là, c'est assez, là, ça fait assez de tuiles que j'ai. Puis c'était un peu dans cette période-là qu'on a eu le talk, là, t'sais, puis moi, j'étais comme, non, regarde, je suis embarqué, puis on va se relever de ça, puis garde, aujourd'hui, on. L'érablière, ça paraît plus. Là. Il y a des arbres qui repoussent. Les arbres, ça repousse, là, tu sais.
C'est une roue qui tourne. Puis lui, est-ce qu'ils ont-tu adopté un autre mode de vie maintenant? Il se lève plus tard?
il travaille encore, mon père. Encore? Ma mère aussi travaille avec nous sur
mais
la
c'est
ferme.
Cette génération-là, ils vont toujours travailler.
Mais il est beaucoup plus relax, tu sais. Ouais. Puis travailler sans pression, zéro pression financière. Puis, tu sais, je veux dire, quand il décide de partir en moto avec son groupe de moto, là, il s'implique fortement dans un groupe de moto, tu sais. Puis... Il part, puis s'il part trois jours, il part trois jours, puis c'est correct, là, tu sais, je suis autonome, moi, j'ai pas besoin nécessairement d'eux dans les opérations, mais, tu sais, c'est sûr et certain que cette année, j'ai eu un an un peu plus tough sans la main-d'oeuvre, ben, tu sais, mon père, il a clutché, puis il a
aidé.
Ah, tu sais, il a vu ça, lui, puis il a fait comme, OK, ben, moi, j'étais encore capable, là, fait que go, j'embarque, là, tu sais.
Il y a ce beau côté-là.
Ah, c'est pas juste, tu sais, là, on a parlé de santé mentale, puis c'est des choses négatives, mais, tu sais, paquet d'affaires positives, tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde non plus qui est pris avec ces enjeux-là, mais c'est très, très, très important parce que moi, j'en ai vu plein autour de moi, puis ça fait 12 ans que je fais ça, j'en ai vu partir puis arrêter, j'en vois plein. C'est même pas... Ouais.
Audrey, le podcast que tu nous parlais tout à l'heure, Ron Delay, on peut l'écouter où?
Radio-Canada, audio, l'application, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Puis, tu sais, au retour de la pause, on va jaser avec Martine Fraser, qui est travailleuse de rang, fait qu'elle a complètement l'autre côté de la médaille. Elle travaille avec les agriculteurs qui en arrachent, qui ont de la misère au niveau santé mentale, parce que c'est un énorme enjeu, là.
David Simard, maraîcher et propriétaire de la ferme Simard, un gros merci d'être passé.
Ah, merci à vous autres.
Et c'est les sapins à ce temps-ci de l'année.
C'est
hein,
les
si
sapins.
Ah oui, là, on va. Ça, c'est joyeux. Là.
La fin de semaine,
je vends des sapins, là, puis c'est tellement plaisant. Les gens sont contents. C'est pas comme acheter du gaz, acheter
c'est
un sapin.
Bonheur,
là.
T'es situé où pour vendre tes sapins? T'es-tu comme...
Mon commerce, Saint-Anne-de-Beaupré, 10611 boulevard Saint-Anne. Passez me voir, venez me voir. J'ai plein de beaux sapins de Noël. Puis,
T'es-tu dans ta petite cabane avec un poêle à bois?
Non, ben, tu sais, moi, j'étais à mon commerce. Là, fait que, moi, c'est un plaisir. Je me colle du lunch là, le midi. Puis, je jase avec. Ça me permet d'avoir un contact avec les clients.
Ben
puis,
oui.
Les sapins de Noël, là, c'est pas une obligation. Là, c'est un luxe. Fait que les gens sont super heureux quand ils viennent s'acheter ça. Les enfants, ils trippent. Puis, c'est
cool. David Simard, un gros merci d'être passé. 10h50, on s'arrête. Le garage à Dan. C'était un bon segment avec David. By the way, ce segment-là va être disponible sur blvd.fm. Vous pouvez aussi l'écouter tantôt sur l'application BLVD.
Oui, je vais le mettre aussi sur la chaîne YouTube. On aime bien faire ça. Là. On a des playlists pour les shows. Là. Fait que dans la playlist de l'Open Mic, vous allez vraiment retrouver le visuel de la conversation aussi.
5 degrés sur Québec, c'est de la pluie à certains endroits. Ce sera comme ça tout au long de la journée, des rafales à 60 km/h. Température stable à près de 7 degrés ce soir, cette nuit, de la pluie ou de la brune. Température stable à près de 6. Demain, vendredi, c'est de la pluie intermittente avec des rafales à 80 km/h. Demain, ça va être venteux. Ouais, tu mets ta calotte.
Oui.
Température stable après de plus 5 samedi et dimanche chez les averses.
Juste ce matin, là, je sais pas toi, là, mais moi, j'avais les petits cheveux qui revolaient. Là.
T'avais un petit vent de travail.
Ben, ça vente anti-pépère ces routes aussi. Là, fait, soyez prudents.
Tu t'en viens me mettre.
C'est vrai que je suis mémère.
Ben, c'est venteux, là.
Oui, c'est venteux. C'est pas le fun. Je me sentais pas en sécurité dans mon véhicule qui tassait de trois rangées.
Là, tu criais au monde de mettre des trucs pas attrapés à grippe. Mettez-vous au-dessus,
attrapez-vous à grippe.
C'est un mythe, ça. All right. Hey, notre prochaine invitée a fait un métier que je ne connaissais pas. Moi, j'avais déjà entendu le mot travailleur de rue ou travailleuse de rue. C'est des gens qui ont, exemple, des éducateurs spécialisés qui vont aider des gens qui sont en difficulté au centre-ville de Québec. Mais travailleuse de rang, je ne connaissais pas.
Je trouve ça vraiment fascinant. Martine Fraser, qui est avec nous, puis travailleuse de rang, elle est pour l'organisme Au cœur des familles agricoles qui existe depuis une vingtaine d'années. 2003, en fait, que ça a été créé. Puis le but de cet organisme-là, bien, c'est d'offrir du soutien psychosocial aux producteurs, productrices agricoles, à leurs familles aussi. Fait qu'ils accompagnent finalement cette clientèle-là là-dedans dans les enjeux de santé mentale. Puis là, bien, tu sais, on a eu la version du producteur, du maraîcher, mais là, on voulait avoir la version professionnelle aussi. C'est quoi ce travailleur de rang? Parce que honnêtement, Yann, je connaissais pas le métier non plus.
Salut Martine, merci d'être avec nous ce matin.
Eh bien, merci à vous autres de l'invitation, c'est super apprécié.
Je pense que tu as entendu le segment tout à l'heure avec David, puis en même temps, pendant la pause, tu nous entendais discuter sur le Zoom. Les gens ont que de bons mots pour toi, Martine.
Bon, ben là, c'est fin.
Comment on en vient à devenir travailleuse de rang? Est-ce que toi, tu es issue du monde agricole aussi?
Oui, absolument. Dans le fond, moi, mon père a une ferme laitière, donc depuis toute ma vie, je baigne dans ce milieu-là. Puis moi, j'aime bien dire que je pense que ce métier-là a été tricoté pour moi, dans le sens où ça combine vraiment mes deux passions, c'est-à-dire le monde agricole, mais aussi toute la bébite humaine qui est derrière et qui tient ce fort-là. Travailleur de rang, ça a vraiment apparu dans ma vie là, comme une épiphanie, là, ouais. Finalement.
Très jeune, tu côtoyais ces gens-là, puis tu voyais qu'il y avait certaines difficultés?
Absolument, absolument. Ouais. Ben, tu sais, quand on grandit dans ce milieu-là, on est à même de les vivre aussi. Fait que c'est pas juste de les constater. On les vit dans le quotidien, tu sais. Moi, je n'ai plus toutes les occasions où, par exemple, mon père pouvait pas rentrer pour un souper. Il arrivait en retard à Noël parce qu'il y avait un bel âge, parce qu'il y avait une buvette d'eau qui a pété. Puis... parce que l'été, ben, il peut pas venir à la piscine avec nous parce que c'est les foins, tu sais. Il y a toujours... Ça a des conséquences aussi dans la vie de famille de ces gens-là. Fait que, ouais, de les vivre, ça permet de les comprendre, puis ça permet de mieux aussi, je pense, accompagner maintenant, dans ma vie d'adulte, accompagner les producteurs dans le cadre de mon travail.
Mais assurément. Puis pour être travailleur, travailleuse de rang, c'est quoi les compétences de... Parce que j'imagine que c'est pas un programme au cégep, cette affaire-là. Là. T'es-tu travailleuse sociale? T'es-tu...
Pour répondre, là, l'ensemble de notre équipe, là, on est tous des diplômés universitaires en relations d'aide. Donc, dans notre équipe, il y a et des travailleurs sociaux et des gens comme moi qui ont un bac par cumul. Dans le fond, moi, j'ai fait plusieurs certificats qui me donnent un cursus en intervention, mais on est de tous les horizons. Là. Okay, ouais. Mais on a tous et toutes un bagage agricole quelconque. T'sais. Que ce soit moi qui ai grandi sur une ferme, j'ai une collègue qui a son propre verger, j'en ai une autre qui vient du milieu forestier à Séricole. Fait qu'on a tous et toutes, on est tous rattachés à l'agriculture.
Puis comment ça fonctionne? C'est-tu à travers le Québec? Est-ce que vous vous promenez?
Oui, bien en fait, là, on est dans 9 régions administratives. Puis il faut dire en fait, que même si ce n'est pas au cœur des familles agricoles qui est, par exemple, en Abitibi ou en Outaouais-Laurentides, il y a quand même des travailleurs de rang aussi. Donc, si vous êtes un producteur agricole, peu importe où vous êtes au Québec, sachez qu'il y a des ressources près de chez vous pour vous aider si vous en avez un besoin. Mais, dans le fond, on est au cœur des familles agricoles, regroupe environ une quinzaine de travailleurs de rang qui sont dispersés sur 9 territoires.
Martine Fraser, quand tu approches des agriculteurs, tu peux pas approcher un agriculteur de 75 ans comme tu approches un agriculteur de 30 ans, de 40 ans. À l'époque, ils avaient leur propre façon de faire, puis ils enduraient. Aujourd'hui, les jeunes ont un peu plus le goût de jaser puis de soigner des fois les petits bobos qui accumulent. C'est quoi les différentes approches que vous utilisez avec ces agriculteurs-là qui se disent des fois, là, toi, la petite, tu viendras pas me dire quoi faire, quoi dire, quoi penser ici, là?
Ouais, ben c'est ça qui est beau, je trouve, avec notre clientèle, c'est que c'est vu que c'est multi-âge, ben ça nécessite d'être créatif. Ça nécessite de se renouveler constamment, finalement, parce qu'effectivement, on n'aborde pas un jeune comme une personne de 75 ans, mais moi, je dirais qu'une approche pour moi qui fonctionne super bien, c'est beaucoup d'y aller avec l'humour, avec, t'sais, de dédramatiser aussi, puis de surtout dire que je comprends le milieu, que je comprends la réalité, que je le sais. Ce que ça fait tantôt, j'entendais David dire, quand tu ouvres ta porte, puis tu vois toute la grêle qui est tombée dans le champ, puis tu vois l'ampleur des pertes. Je le sais, ça. Fait que, t'sais, je pense qu'on va beaucoup chercher les gens quand on leur nomme qu'on comprend ça, puis qu'ils n'ont pas à se justifier de leur métier puis de ce qu'ils vivent, parce que déjà, on va au-devant des coups parce qu'on connaît ça.
Qu'est-ce que les gens vivent, selon toi, de ton point de vue professionnel le plus? Parce que tu m'as envoyé plein d'affaires, puis on a effleuré un peu la solitude, entre autres, avec David. Tu as parlé de la famille, mais y a-tu autre chose qui est quand même flagrant?
Mon Dieu, il y a tellement de choses qui sont flagrantes. Mais j'ai envie de dire le manque de reconnaissance de la profession. On entend beaucoup parler du bien-être animal, par exemple en ce qui concerne les producteurs qui sont au niveau des animaux. Mais quand est-ce qu'on parle vraiment du bien-être de l'humain derrière? Quand est-ce que ça, c'est au premier plan? Puis on le sait que ça a une incidence. T'sais, un producteur qui est en bonne santé mentale, ben, va avoir une plus grande propension à s'investir dans son entreprise et à avoir des bonnes pratiques et tout ça.
Être plus créatif aussi.
Être plus créatif, tout à fait. Fait que moi, c'est ça. La grosse question, c'est quand est-ce qu'on va mettre le bien-être du producteur à l'avant-plan? Fait que le manque de reconnaissance, c'est quelque chose qu'on voit vraiment beaucoup. Le manque de soutien, autant pour, tu sais, moi, je le vois, là, autant les jeunes qui se démarrent ou qui souhaitent se démarrer en agriculture vivent des énormes défis. Autant les gens qui sont établis vivent des défis pour maintenir leurs entreprises, dépendamment des mauvaises années météorologiques ou dans des contextes politiques, économiques qui peuvent être difficiles. Puis finalement, ben, ceux qui partent, ceux qui quittent l'agriculture, c'est difficile aussi parce que là, on se retrouve avec des gens qui ont surinvesti la sphère professionnelle tout au long de leur vie. Puis on leur dit, rendu à... Parce que la retraite en agriculture est pas, c'est pas liberté 55. On est plus, les gens, ils vont quitter vers 65, 70, j'en ai plus loin que ça même.
Est-ce que toi, à intervenir comme travailleuse de rang, est-ce que tu as à intervenir des fois dans des conflits conjugaux? T'sais, on a vu l'amour est dans le pré, mais des fois, la fille ou le gars, il veut plus être dans le pré, mais.
Il n'y a pas le choix.
Est-ce que tu dois intervenir dans ce genre de situation-là? Parce que veut pas, le gars ou la fille qui a toujours été sa ferme connaît les charges de travail et tout ça, mais la fille ou le gars qui tombe en amour avec le propriétaire de cette dite ferme-là, au départ, c'est super beau, là. Hey, mon conjoint se promène dans les champs avec son tracteur, mais en bout de ligne, comme tu nous l'as dit, toi, tu étais enfant, ben, ton père, il arrivait en retard à Noël. Ton père, des fois, il ne pouvait pas assister au souper de famille. Il ratait des petites affaires. Des fois, les conjoints-conjointes qui ne sont pas dans ce milieu-là, ils se disent, ouais, j'ai-tu vraiment choisi ça, moi, là?
Ouais, c'est pas toujours aussi bucolique, puis aussi cute qu'on pense, là. Des bébés, des veaux, là, c'est vraiment mignon, mais c'est une charge de travail aussi, là. Fait que oui, effectivement, des fois, on constate ça aussi, ce décalage-là. Puis, tu sais, il y a un rapport des agricultrices qui est sorti récemment là, sur la charge mentale des femmes en agriculture. Puis on le voit, là, tu sais, maintenant on a des données aussi à l'appui. Tu sais, c'est quelque chose que nous, on voyait dans le cadre de nos pratiques, mais là, c'est le fun que ça a été documenté. Mais on voit que la charge mentale des femmes en agriculture, c'est quelque chose c'est un fardeau finalement. Ça devient très lourd. Fait que oui, on est appelés. Tu sais, déjà, nous, moi, j'aime bien dire qu'on est des généralistes. On est à intervenir sur des multiples problématiques. Fait qu'on parle des problèmes au niveau des transferts de fermes, des problèmes, des conflits intergénérationnels. parce que les mentalités de travail de nos parents versus les jeunes qui veulent prendre la relève sont pas du tout les mêmes. Fait que oui, les conflits conjugaux, ça fait effectivement partie de notre champ d'expertise, là, finalement, parce que des fois, le problème qui va partir de la ferme, ben, il se ramène à la maison. Puis souvent aussi en agriculture, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que le travail dans la famille et la famille dans le travail. Fait que quand tu travailles avec ta blonde ou avec ton chum, puis que là, ben, vous vous pognez pour X, Y raison, ben, ça se peut que le conflit se ramène à la maison. Puis ça se peut après ça que, tu sais, ça engendre d'autres choses, qu'on soit moins patient avec les enfants, qu'on soit moins dans la bienveillance l'un envers l'autre. Fait que oui, ça fait partie des choses
Mais c'est parce que
qu'on
t'es
travaille.
tout le temps là-dedans, tu penses qu'à ça, j'ai l'impression, là, c'est... Tu sais, puis
Oui.
je sais pas comment ça fonctionne pour tous je veux dire, les domaine dans le domaine agroalimentaire, mais tu sais, mettons, ferme laitière, là, c'est quoi à 3, 4 heures du matin que vous vous levez pour,
Faire le train.
tu sais, c'est jour et nuit, là, c'est tout le temps.
Oui, ben dans tout le vivant, là, finalement, là, je pense qu'il y a des. Je pense que les gens qui sont. Tu sais, moi, j'avais une productrice maraîchère qui, elle, les soirs qui annonçaient des tempêtes, ben, tu sais, elle était assise devant sa fenêtre, puis elle regardait son champ, puis elle espérait qu'il ne se fasse pas inonder, tu sais. Fait que je pense que peu importe le type de production, quand on travaille avec le vivant, ça amène son lot de stress, ça amène ses nuits blanches, ça amène. Mais je vais parler pour ce que je connais un peu plus, c'est-à-dire le domaine laitier bovin. C'est sûr que quand tu as une vache, quand moi, tous les producteurs que je connais, quand ils ont une vache qui file pas, c'est pas comme un ordi que tu fermes à 5 heures puis c'est terminé. T'sais. Tu vas retourner la voir durant la soirée, tu vas t'endormir en pensant à ce que tu pourrais faire, à ce que tu penses qu'elle a, est-ce qu'elle va s'en sortir. T'sais, on est attaché à nos animaux. Fait que oui, c'est un poids qu'on ramène
Fait
dans
que
toutes les sphères de nos vies.
le deuil doit être un autre enjeu aussi, j'imagine.
Absolument. Deuil de multiples façons, que ce soit un deuil parce qu'on a perdu une bête qu'on appréciait particulièrement, que ce soit un deuil parce que on n'a pas de relève puis on doit vendre l'entreprise, que ce soit un deuil parce que la relève n'a pas fonctionné. Tu sais, l'agriculture, c'est beaucoup aussi ça, des
Ouais, puis
fois.
j'entendais
Okay.
le deuil de David tantôt qui disait ouais, moi, j'ai un souvenir de moi qui est à l'entrée de ma ferme, puis qui regarde le champ, puis que là, il y a de la grêle, puis qui se dit bon, ben là, je viens de perdre 10 000, bon, ben là, je viens de perdre 20 000, je viens de perdre 30 000. Ça naît des deuils financiers, ça, à faire,
Absolument.
là. Hey, c'est
Absolument.
terrorisant, là. C'est pas comme si lui avait choisi d'aller au casino puis de dire hey, j'ai ça à perdre, moi, le perdre. Mais
C'est
là,
un
c'est
gros
Dame
poids.
Nature qui décide que ça va être de la grêle. C'est tes récoltes qui passent au cash, là.
On est avec
Oui.
Martine Fraiseur, qui est travailleuse de rang. Tu dis ça, Yann, puis ça me fait penser au fait que même si, Martine, tu aides ces gens-là, tu peux pas leur ramener leur argent, tu sais, par exemple.
Non.
Fait que comment exactement tu aides? C'est quoi les techniques? C'est combien de séances? Juste qu'on ait une idée, mettons, pour certaines personnes peut-être qui nous écouteraient, qui ont envie d'en savoir un peu plus sur ce que tu fais, là.
Ben, en fait, là, déjà, faut dire que notre approche comme travailleur de rang, elle est super flexible. Donc, nous, on n'est pas dans un cadre rigide, par exemple, comme dans certaines branches du réseau de la santé où tu as un X nombre de rencontres de 50 minutes. Nous, on n'est pas là-dedans. Donc, moi, si j'ai un producteur qui a besoin d'une rencontre une fois par année, c'est ça. Si c'est un producteur qui a besoin de 10 rencontres dans les 2 prochains mois, ben, ce sera ça aussi. Tu sais, on y va vraiment en fonction du besoin du producteur. Puis là, ben, avec les années, j'ai développé une certaine expertise pour les métaphores agricoles. Donc, moi, je dis pas pour vider le bain, je dis pour vider la fosse. Fait
C'est bon.
que, dépendamment, le producteur, sa fosse, elle a l'air de quoi, ben, on va prendre le temps qu'il faut pour faire le ménage adéquatement. Fait que, c'est ça. Puis, tu sais, nous, on est vraiment. Tu sais, quand je dis qu'on est flexible, ben on est aussi flexible sur le lieu de la rencontre. Fait que si le producteur, on est en pleine saison, puis que prendre une heure et demie pour se déplacer ou pour. C'est trop, ben moi, on offre aussi le service de se déplacer à la ferme. Et moi, ça arrive de temps en temps, je vais faire des tours de tracteur ou je jase pendant que le producteur fait la traite. Et, tu sais, fait qu'on est vraiment calqué, tu sais, on est vraiment imprégné. Sur la vie du producteur selon ses besoins. Fait que, tu sais, les outils aussi qu'on va mettre en place, ben, vont vraiment être variables. Tu sais, moi, j'irai pas au producteur dire, ben, t'es fatigué ou, tu sais, peu importe, ben, tu devrais prendre un mois de congé. Je le sais que c'est pas faisable. Mais je vais essayer de trouver avec lui des stratégies pour que qu'on puisse continuer à faire son travail tout en mettant en place des actions pour prendre soin de lui. C'est vraiment vers cette approche-là qu'on va se diriger. Fait que c'est vraiment variable, finalement.
Martine, as-tu des statistiques sur le nombre de clients ou d'interventions que tu sais, tu peux faire dans un mois ou dans une année, juste pour donner un ordre d'idée aux gens à quel point tu sais, c'est comme c'est répandu, puis c'est réel, puis c'est là, là.
Ben là, comme faut dire aussi qu'il y a des réalités régionales qui entrent en ligne de compte. C'est-à-dire que, mettons, moi, je suis en Mauricie, j'ai une plus petite région agricole que, par exemple, Montérégie ou Chaudière-Appalaches. Donc, moi, mes réalités régionales sont différentes de, par exemple, ces deux autres régions-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que en ce moment, dans toutes les régions du Québec, ben, mon équipe est occupée temps plein, dans le sens où les statistiques vont sortir plus en fin d'année, puis tout ça. Fait que pour l'année en cours, on va avoir des chiffres plus précis. Mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, depuis que j'étais à ACFA, ben, il n'y a pas vraiment de période où on manque d'ouvrage, finalement. Fait que là, je suis pas en train de dire aux producteurs de ne pas nous appeler parce qu'on est occupé. Non, c'est pas ça que je dis. Le service est là. Et ce que je suis en train de dire, c'est qu'il est utilisé.
Martine, est-ce
Bon.
qu'il y a, il y a une déconnexion actuellement entre le consommateur et le producteur? Est-ce que les producteurs sont très inquiets de ça, du fait que le consommateur, des fois, semble pas trop savoir l'importance de l'agriculture locale?
Professionnellement et personnellement, je pense que oui. Je pense que oui, il y a une déconnexion. Bien qu'il y ait des initiatives qui naissent un peu partout pour refaire les ponts, je pense qu'il y a quand même, on assiste à une érosion, on le voit, là, il y a une exode rural aussi. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais je pense que c'est en agriculture, c'est quand même assez inquiétant. T'sais, vous parlez de statistiques, mais t'sais, c'est documenté que l'âge moyen du producteur au Québec est presque de 55 ans. T'sais, fait que ça nous dit que la relève agricole, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je trouve ça inquiétant parce que c'est tout notre relief agricole, c'est toute la vitalisation de nos régions. Je crois, tu sais, il y avait des études qui avaient sorti sur le nombre de villages au Québec qui étaient maintenus en vie par l'agriculture. Puis de mémoire, ça tourne autour de 500 et plus. Mais ces 500 petits villages-là et plus qui vivent de l'agriculture, s'il y a moins d'agriculture, s'il y a moins d'occupation de nos territoires, ben, ces petits villages-là, c'est les écoles, c'est les petites épiceries de proximité, c'est... Tu sais, fait qu'il y a tout un système qui se nourrit de cette occupation-là du territoire. Et c'est... Moi, je pense que c'est pas viable de penser qu'on peut faire de la grande culture partout au Québec. Il y a des terres qui sont pas propices à ça. Et ça amène la beauté d'avoir des élevages ou des productions diversifiées, finalement. Puis c'est pour ça, je pense que c'est important de se poser la question comme société où on veut se diriger par rapport à notre agriculture. Quelle couleur qu'on veut lui donner?
Martine, t'aides les gens personnellement aussi à travers ton travail, mais tu essaies de faire une différence auprès des institutions aussi pour faire bouger les choses. C'est quoi ton cheval de bataille principal en ce moment?
Oh mon Dieu, j'ai une écurie
Il y a
de
plusieurs
chevaux.
chevaux. Il y a des chevaux.
Une écurie de chevaux. Ben, entre autres, moi, c'est ça. J'aime bien dire que moi, ce que je souhaite, c'est parce que je veux pas, moi, je me sens, tu sais, on récolte des petits bouts de plein de gens. Et là, je me dis, ben, il y a peut-être quelque chose à faire collectivement de tous ces petits bouts-là. Et peut-être que je peux, à mon échelle, humblement, porter des dossiers plus haut, aller militer auprès des gens qui ont le pouvoir de faire changer les choses pour dire, ben, crime, travaillons en équipe, puis regardons qu'est-ce qu'on peut offrir comme système pour que nos producteurs aient réellement les moyens de leurs ambitions, puis qu'ils puissent, tu sais, parce que j'entendais une collègue l'autre fois donner une entrevue dire qu'elle avait des producteurs sur l'aide alimentaire. Comment ça se fait? Comment ça se fait que nos producteurs agricoles qui nourrissent le monde soient dans ces difficultés-là?
Il y avait des
Donc,
producteurs qui avaient
c'est ça.
besoin de paniers alimentaires. T'avais-tu déjà entendu parler de ça, David?
Non, moi, c'est sûr que je suis maraîcher, fait que je suis pas mal les mains dedans, mais tu sais, je peux comprendre que, tu sais, dans le port, ça allait vraiment pas bien, là. Ouais. Tu sais, le gouvernement payait des producteurs de porc pour qu'ils arrêtent. C'est que j'ai pas de misère à le croire, en fait. Aucune misère.
C'est particulier pareil, hein?
C'est démontrer à quel point il y en a qui sont dans la misère.
Ouais.
Martine, on fait comment pour te rejoindre? J'imagine que le site web au cœur des familles agricoles, donc acfaréseauqc.ca, c'est bon?
Exactement.
C'est moins compliqué de taper au cœur des familles agricoles sur Google, là.
Oui, là, oui, ça, c'est vrai que c'est plus simple. Ou probablement que si vous, vous tapez travailleurs, travailleuses de rang, vous allez tomber aussi facilement sur, sur le site web. Je tiens à dire, Martine, qu'on a des textos qui entrent puis des gens qui ont référé puis qui disent que c'est vraiment une ressource extraordinaire pour nos personnes, finalement, qui travaillent dans l'agroalimentaire, là.
Oui, puis, tu sais, c'est ça, chaque producteur, tu sais, moi, j'aime bien dire aux gens que c'est pour déstigmatiser la demande d'aide. Ben, tu sais, les producteurs, dans leur coffre à outils, ils ont des vétérinaires, des agronomes, ils ont des conseillers financiers. Ben, pourquoi pas intégrer un travailleur de rang à son coffre à outils? Puis, pas juste attendre que ça aille mal pour aller demander de l'aide, mais finalement, d'y aller en amont. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'on peut mettre en place déjà avant que la fosse déborde puis que là, tout le monde capote? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place en amont de ça? Donc, voilà, tout le monde a sa place.
Un gros merci, Martine Fraser.
Ben, c'est moi qui vous remercie. Bonne journée.
Bonne journée.
Bye bye. Martine Fraser, qui est travailleuse de rang, qui vient en aide aux agriculteurs. Pour la rejoindre, au cœur des familles agricoles sur Google ou encore acfaréseau.qc.ca.
J'ai vraiment trouvé ça intéressant.
Ouais, de savoir que ça existe. Moi, je ne savais pas que ça existait. J'étais persuadé que, bon,
tu cherches un psy comme tout le monde, t'as d'abord dans 3 ans.
C'était un psy. C'était un psy. En même temps, il y a quelque chose de logique, c'est que l'agriculteur, il ne peut pas nécessairement délaisser sa terre pour aller chez le psychologue en ville.
Il est seul, mais oui, totalement.
C'est rare que les psychologues sont en campagne.
Ils se déplacent pas normalement non plus.
Puis de savoir que tu peux avoir une chum de fille ou un chum de gars qui se déplace, qui lui a des connaissances générales, pour pouvoir t'aider, je trouve que c'est rassurant. Puis comme David nous disait tantôt pendant la pause, ces gens-là sauvent des vies. Hein.
Oui, totalement. Puis David nous a conté d'autres histoires. Puis j'avais pas réalisé à quel point, je pense. Parce que oui, tu réalises que ces gens-là sont seuls, mais en même temps, tu as l'impression qu'ils sont tellement entourés de leur famille. Puis tu sais, mon chum, ses parents, puis c'est vraiment, c'est un parallèle super boiteux, mais c'est la seule entrée qui me permet de comprendre, on dirait. Mon chum, ses parents ont eu un dépanneur de village pendant vraiment longtemps. Puis le genre de dépanneur que c'est eux qui devaient, qui devaient être là 7 jours sur 7, finalement. Il y avait un ou deux employés, puis c'était sur leurs épaules quand il y avait des pannes. Bien, ils allaient dormir au dépanneur de village. Puis je me souviens à quel point c'était difficile de coordonner juste une journée en famille le dimanche, mettons. De dire qu'ils seraient avec les deux gars puis qu'on allait passer une journée dans le parc de la Mauricie, mettons. C'était super compliqué. Puis eux autres, bien, c'était un dépanneur qui avait... Mm-hmm. Fait que je peux même pas imaginer quand t'as une terre que tu dois produire. C'est vraiment intense. C'est vraiment intense. Puis je suis contente qu'on ait eu David et Martine ce matin pour nous le faire comprendre. Puis je sens que les auditeurs ont apprécié aussi.
Oui, vraiment. Puis David, tu te posais la question des fois si dans 20, 30, 40 ans, il va y avoir encore de l'agriculture locale comme tu fais. Tu la poses-tu la question? Puis qu'est-ce qu'on va faire en tant que société si on n'a plus votre gang à vous autres?
Bien, c'est sûr que ça fait partie des questionnements. Puis tu te dis, bon, ça va-tu exister encore ou on va prendre toute notre bouffe aux États-Unis ou au Mexique? Oui, ça fait partie des questionnements. T'sais, j'espère qu'on n'en viendra pas là. Parce que, tu sais, dans d'autres industries, on n'est plus autonome. Tu sais, ouais. Le textile, ces affaires-là, ça n'existe plus au Québec. Là. On est dépendant de d'autres endroits dans le monde, puis ça va être problématique tantôt. La bouffe, c'est quelque chose qui est essentiel à la survie.
C'est la base.
Tu sais, c'est la base. Hein, tu sais, il y a des affaires qui vont être capables de se passer s'ils décident d'arrêter de nous en envoyer, mais la bouffe, si on en vient là, d'être dépendant d'autres places puis d'autres pays... on va être dans un sérieux problème. Là, t'sais, fait que c'est...
Les critères qu'on vous demande pour que ce soit de plus en plus santé, là, ce qui sort de nos terres, puis on veut pas de produits de ci, on veut pas de produits de ça. T'sais, vous devez appliquer tous ces critères-là. Puis, eux, ils disent on protège l'être humain en bout de ligne. Mais rendu au Mexique, aux États-Unis, ils n'ont pas les mêmes critères que nous autres au Canada.
Non, puis ce qui est un peu bizarre, c'est que je veux des choses plus santé pour ma famille, je veux des... Mais il n'y a personne qui s'empêche d'acheter un produit du Mexique ou en ayant peur de s'empoisonner.
T'sais. Non, notre discours, faites pas pantoute.
Combien d'épisodes de colis il y a eu dans des salades, des laitues de la Californie parce qu'ils arrosaient avec des eaux usées, puis des fois, ils n'échappaient un petit peu, puis il y avait des rappels sur des laitues, mais... On n'a pas ça au Québec, ça n'arrive pas. Là,
Parce que vous prenez soin, vous savez ce que vous fournissez, la façon de faire est excessivement différente.
On a de l'eau en masse propre en plus pour arroser, fait que y a pas de risque là, tu sais.
Moi j'ai été fessé à un moment donné, je me rappelle pas quel documentaire que je regardais là, sur l'agriculture qui se faisait en Amérique du Sud et tout ça, mais je faisais partie de la catégorie de monde que quand ils achètent de quoi à l'épicerie, des fruits, des légumes, je passais pas, tu sais, des raisins, hein, je passais pas tout le temps en dessous de la champlure.
Ah, moi non plus.
Mais
mon
après,
Dieu.
Le visionnement de ces documentaires-là, là, le gars qui asperge là, les légumes là, qui fait pousser, là, il a un gros masque d'en face.
Ah, fait que tu te dis, ouais.
Puis lui, il asperge, je me suis dit, ben, peut-être que c'est pas une mauvaise idée
c'est
de laver ça.
C'est pour ça
qu'il faut que
je nettoie.
Exact. Hey, David Simon, un gros merci encore une fois. On rappelle aux gens que tu es maraîcher et propriétaire de la ferme Simon. Puis Audrey, ben, je te souhaite de passer une belle fin de journée. On t'écoute tantôt avec Denis.
Oui, à tantôt.
À tantôt. Salut. Pascal CV s'en vient. Pour l'instant, Mordicus au chéri sur Boulevard.